France Culture.
Le journal Stanislas Fazac. Bonsoir Stanislas et meilleurs voeux.
Merci Quentin, bonsoir à tous. La Suisse endeuillée par l'une des pires tragédies de son histoire. Une quarantaine de morts la nuit dernière dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana dans le Valais. La piste criminelle est pour l'instant écartée. Nous serons sur place dans un instant. Peut-être un tournant dans la mobilisation en cours en Iran contre la vie chère. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans le sud du pays. Il y aurait au moins 3 morts selon les médias iraniens. Le marché automobile français à la peine en 2025. Les ventes de voitures neuves ont encore reculé de 5%. Renault se maintient, contrairement à Peugeot et Citroën. Le succès des monuments nationaux l'an dernier en France, plus de 12 millions de visiteurs, un nouveau record. Les cathédrales de province notamment ont attiré beaucoup de monde. Enfin, un invité dans ce journal, l'architecte Mathias Gervais de Lafond, pour évoquer la conservation des bâtiments publics à l'épreuve du temps. Combien de personnes sont mortes la nuit dernière dans l'incendie de Crans-Montana en Suisse? Le bilan reste incertain ce soir. Il y aurait une quarantaine de morts et 115 blessés au moins, selon les autorités suisses. Le feu a pris dans un bar de cette station UP du canton du Valais, le Constellation. Il y avait foule pour fêter le nouvel an. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée par les enquêteurs. Peut-être des bougies qui auraient enflammé un plafond en bois. Christophe Vincent, vous êtes sur place à Crans-Montana et vous avez rencontré des témoins du drame sans nouvelles de leurs proches.
Oui, au cœur de la station, la rue centrale reste fermée à 200 mètres du Constellation. On voit juste une bâche blanche qui recouvre la devanture du bar au rez-de-chaussée d'un immeuble de 6 étages. Au milieu des promeneurs et des curieux, on croise des jeunes présents cette nuit, comme Victor, un Belge de 15 ans, véritable miraculé.
J'attendais pour voir si je pouvais rentrer et je suis rentré et puis direct après les flammes, du coup je suis direct ressorti. J'ai pas eu le temps de rester à la soirée. Juste on a vu des gens crier, partir en courant et puis on a vu de la fumée, du coup on est aussi parti avec d'autres amis. Et on a eu de la chance, on est tous, mes amis, on a réussi à sortir. J'avais des amis à l'intérieur. Une qui a été vraiment brûlée et une autre qu'on ne retrouve pas. On craint d'avoir perdu les copains.
Un peu plus loin, Federico semble ailleurs. Cet Italien n'a pas pu rentrer dans le bar, faute de place. 7 de ses amis sont à l'hôpital et il est sans nouvelles de 5 autres.
Nous, on n'a pas dormi, on ne sait pas quoi faire. On n'arrive pas à manger, on ne sait pas trop. C'était un film, c'était un cauchemar. C'était pas vrai. Il y en a qui sont à l'hôpital et il y en a qui sont bien. Mais après, je ne sais plus rien.
Tous ces jeunes attendent des nouvelles de leurs proches autant qu'il les redoute.
Christophe Vincent depuis Crans-Montana en Suisse. Au moins 2 Français figurent parmi les blessés selon le ministère français des Affaires étrangères. Emmanuel Macron fait part de sa profonde émotion en adressant à la Suisse, je cite, « la pleine solidarité de la France ». En Iran, le mouvement contre la vie chère est peut-être en train de basculer dans la violence. Des heurts ont éclaté dans le sud du pays. Il y aurait au moins 3 morts. Les premières victimes de cette mobilisation entamée dimanche dernier à Téhéran. Les commerçants du bazar avaient fermé boutique pour dénoncer l'inflation galopante. En soutien, les étudiants de la capitale ont commencé à manifester. On fait le point sur les dernières informations en Iran avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
Selon l'agence Fars, citant une source informée, plusieurs personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de plusieurs centaines de manifestants dans la ville de Lordegan, dans le sud du pays, qui a une population de 40 000 habitants. Une autre agence de presse iranienne parle de 2 morts. L'agence Fars a ajouté que certains manifestants étaient armés et qu'il y a eu des blessés de part et d'autre, c'est-à-dire parmi les manifestants, mais aussi parmi les forces de l'ordre. Plusieurs bâtiments publics, mais aussi des banques, ont été fortement endommagés dans l'attaque par les manifestants. Si ces informations se confirment, ce seraient les violences les plus importantes depuis le début du mouvement de protestation il y a 5 jours. Dans la ville de Kourtash, à l'ouest, qui a connu des affrontements mercredi, le procureur a déclaré qu'un membre de la milice islamique a été tué et que 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Il a par ailleurs annoncé l'arrestation de 20 personnes. Enfin, les médias ont annoncé l'arrestation de 7 personnes dans la ville de Kermanshah, toujours à l'ouest, accusé de lien avec les groupes d'opposition basés à l'étranger qui voulaient provoquer des troubles.
Siavosh Ghazi, correspondant de France Culture en Iran. Hier, le régime iranien avait promis une réponse ferme aux fauteurs de troubles. De son côté, le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, avait appelé les protestataires à intensifier leur mobilisation. Dans un message en persan sur le réseau X, le Mossad avait même affirmé être présent sur le terrain en Iran, sans plus de précision sur cette cette présence. En Ukraine, il n'y aura pas eu de trêve de nouvel an. Au contraire, la Russie a lancé la nuit dernière une nouvelle salve de drones sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Plus de 200 engins, selon le président Volodymyr Zelensky, des frappes qui ont endommagé le réseau électrique dans cette région du pays. La Russie, plus que jamais déterminée à atteindre ses objectifs militaires, comme la conquête totale du Donbass dans l'est de l'Ukraine. La campagne d'incorporation des appelés russes pour le service militaire se déroulera désormais sur toute l'année civile. Quant aux réservistes, ils seront formés à des missions opérationnelles. Les deux décrets signés par Vladimir Poutine dans les derniers jours de 2025 traduisent peut-être un certain essoufflement dans le recrutement des combattants pour mener cette guerre en Ukraine, Éric Biegala.
Le recrutement des combattants en Russie se fait actuellement sur la base d'une contractualisation, contre-espèce sonnante et trébuchante, et pour des soldes tout à fait intéressantes, équivalentes à deux, voire trois fois le salaire moyen en Russie. En 2025, la Russie a ainsi recruté un peu plus de 400 000 combattants sous contrat, souvent peu, voire pas formés du tout. Ces soldats nouvellement lancés dans les assauts sur l'Ukraine ont payé un tribut particulièrement lourd. L'état-major ukrainien estime à plus de 400 000 Russes le nombre de victimes, morts et blessés au combat sur la même période. En bref, les nouveaux recrutements ne compensent plus qu'à peine les pertes. Les nouvelles dispositions pour le service militaire, une campagne d'incorporation sur toute l'année, plutôt que sur deux périodes de trois mois, devraient permettre de fluidifier l'administration des incorporations au service actif, et permettre aussi d'improviser une incorporation massive en cas de mobilisation générale, laquelle n'est toujours pas envisagée. Les objectifs pour le service militaire 2026 seraient d'incorporer 260 000 jeunes, à peu près le même volume qu'en 2025, et comme en 2025, il ne s'agira pas de combattants, les conscrits du service militaire russe ne sont pas censés être lancés au combat. Mais ce contingent n'en constitue pas moins une réserve humaine importante, souvent lourdement incitée à signer un contrat d'engagement au terme de ce service militaire obligatoire. Au moins auront-ils été formés et entraînés pendant 12 mois.
Éric Biegala de la rédaction internationale de Radio France. Par ailleurs, Moscou accuse l'Ukraine d'avoir tué au moins 24 personnes dans la partie occupée de la région de Kherson. Une attaque de drone contre le village de Korli sur les bords de la mer Noire. La Russie dénonce, je cite, une attaque terroriste contre des civils qui fêtaient le nouvel an. Le marché automobile français ne redémarre pas, au contraire, il a encore reculé en 2025. Les ventes de voitures neuves ont baissé de plus de 5% l'an dernier par rapport à 2024, avec 1 632 000 nouvelles immatriculations. Alors si Renault tire son épingle du jeu, les marques françaises du groupe Stellantis, Peugeot et Citroën ont enregistré de mauvais résultats. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Un quart du marché automobile français s'est évaporé depuis 2019, la dernière année avant le Covid.
Oui, un phénomène qui s'explique par une croissance économique qui reste faible, à moins de 1%, ainsi que par le contexte d'incertitude politique et budgétaire qui pousse les ménages à être beaucoup plus prudents avec un taux d'épargne qui est actuellement au plus haut en France. Mais surtout par les tarifs des véhicules qui ont beaucoup augmenté ces dernières années depuis le Covid. En effet, le prix d'une voiture neuve en France est actuellement en moyenne de 36 000 euros. Résultat, les automobilistes préfèrent décaler leurs achats, comme nous l'explique Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
On voit bien que dans d'autres pays en Europe, on pourrait prendre l'exemple de l'Espagne qui a une croissance économique forte et là les ventes de voitures neuves ont fortement progressé en 2025. Donc on le sait, il y a une corrélation forte entre la croissance et les ventes de voitures neuves. Et c'est vrai qu'on s'attend pour 2026 à une croissance qui restera positive mais légèrement positive. Donc on peut anticiper un léger rebond des ventes en 2026. Pour autant, on restera toujours à des niveaux qui sont très faibles. Et c'est un problème pour l'ensemble de la filière, les constructeurs, les distributeurs, les concessionnaires, mais aussi les équipementiers et les sous-traitants automobiles.
Dans ce contexte, la filière auto, qui emploie en France plus de 400 000 personnes, pourrait encore supprimer des postes cette année. Enfin, seule bonne nouvelle, le marché de la voiture électrique progresse, lui, puisqu'il est passé de 12 à 20% cette année. Des chiffres qu'il faut toutefois relativiser, car cette progression est en grande partie liée aux mesures de soutien, comme le bonus écologique, ainsi qu'au verdissement des flottes d'entreprises, voulu par la Commission européenne, les flottes d'entreprises qui représentent actuellement plus de 50% des immatriculations.
Hakim Kasmi, service économie de France Culture, merci. Il y a eu des violences urbaines la nuit dernière en France à l'occasion du Nouvel An. La police a recensé plus de 900 voitures brûlées, dont une centaine dans la seule agglomération de Strasbourg. Par ailleurs, 5 policiers et un CRS ont été blessés sur les 27 000 agents mobilisés selon un bilan provisoire des autorités. C'est l'une des nouveautés du 1er janvier pour les propriétaires et les locataires, la réforme du DPE, le diagnostic de performance énergétique, désormais plus favorable au chauffage électrique. Principal outil de la rénovation des bâtiments, la réforme devrait sortir 700 000 logements de la catégorie des passoires énergétiques. Le DPE, indispensable pour la vente ou la location d'un logement, suscite souvent la polémique en raison des possibles fraudes ou approximations. Alors pour tenter de restaurer la confiance dans cet outil, le gouvernement promet de mieux encadrer les diagnostiqueurs, Annabelle Grelier.
80 000 faux DPE sont émis chaque année, révèle un rapport rendu en fin d'année au ministère du Logement. De quoi éveiller les soupçons des Français, alors que les fameuses notes A, B, C, D, E, F et G pour les pires passoires thermiques sont aujourd'hui centrales dans les transactions immobilières. Une mauvaise note au DPE peut en effet signifier une interdiction de louer ou une dégradation importante de la valeur d'un bien à la revente. Il est donc grand temps de mieux encadrer les quelques 12 000 diagnostiqueurs certifiés aujourd'hui en France. Le député Renaissance d'Indre-et-Loire, Daniel Labaronne, auteur du rapport, préconise la création d'un quasi-ordre avec délégation de services publics. Une fédération qui définirait un code de déontologie, mettrait en place des commissions de discipline et pourrait prononcer des sanctions. Une instance en somme qui pourrait faire un peu le ménage dans cette profession encore récente. Pour éviter les diagnostics de complaisance, le gouvernement a déjà émis l'année dernière plusieurs décrets. Contrôle renforcé, examen de certification plus rigoureux, QR code pour chaque professionnel à présenter à chaque visite, détection automatique des comportements suspects via un outil statistique intégré à la base de données de l'ADEME et inscription sur une liste noire des diagnostiqueurs sanctionnés. Mais le rapport va plus loin en proposant notamment la création d'une plateforme publique permettant de centraliser tous les signalements et les plaintes liés aux diagnostics immobiliers. Un autre enjeu majeur sera de protéger les diagnostics bien trop souvent soumis aux pressions que peuvent exercer les donneurs d'ordre comme les propriétaires, les bailleurs, les agents immobiliers ou encore les notaires.
Explication signée Annabelle Grelier. C'est un record, les monuments nationaux ont attiré plus de 12 millions de visiteurs en 2025, de l'Arc de Triomphe au Mont-Saint-Michel en passant par la cité de Carcassonne, liste non exhaustive bien sûr. En 2023 et en 2024, leur fréquentation avait déjà dépassé les 11 millions de visiteurs. Des chiffres que l'on doit au CMN, l'établissement public chargé de la gestion et de la conservation des quelques 110 édifices classés monument national en France. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Ces très bons chiffres s'expliquent à plusieurs titres.
D'abord, la réouverture du nouveau parcours de visite des tours de Notre-Dame avec plus de 110 000 entrées depuis les Journées européennes du patrimoine au mois de septembre a permis de doper la fréquentation à Paris, sachant que l'Arc de Triomphe, toujours en tête au niveau national, avec 1 852 000 visiteurs affiche une hausse en un an de plus de 5% et que le Panthéon, la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, parmi les 5 monuments les plus visités en France également, confortent leur place en accueillant au total quelque 435 000 personnes de plus qu'en 2024. Le monument hors capitale le plus fréquenté reste l'abbaye du Mont-Saint-Michel, avec 1 627 000 visiteurs en progression de 7%.
Et pour expliquer ce record de plus de 12 millions de visiteurs, le Centre des Monuments Nationaux met aussi en avant, Benoît, le succès des cathédrales.
Les tours et trésors des cathédrales ont été même, selon le CMN, plébiscités en 2025, avec une hausse proche de 100% à Amiens, de près de 75% à Chartres et de plus de 40% à Reims, soit au total quelque 27 000 visiteurs de plus qu'en 2024. Ajoutons à cela une dernière progression remarquable, tout près de Châteauroux dans le village de Nohant. La maison de Georges Sand a connu un petit boom de fréquentation de 23% avec plus de 45 000 visiteurs, juste avant le début de cette année 2026, qui sera marquée par la célébration des 150 ans de la disparition de l'écrivaine, grande figure littéraire et culturelle du 19e siècle, que l'Institut de France a inscrite au calendrier des commémorations nationales.
Benoît Grossin, merci. On reste dans le patrimoine pour une réflexion ce soir dans ce journal autour de l'obsolescence des bâtiments publics. C'est l'un des enjeux patrimoniaux de 2026. On parle là des musées, des gares, des universités, des préfectures, des hôpitaux ou des écoles. Alors pourquoi fois, certains bâtiments semblent-ils devenir obsolètes avec le temps? Et que cache cette impression de dégradation rapide? Comment les architectes des grands bâtiments, comme les institutions culturelles, anticipent-ils désormais la dimension temporelle dans leurs projets? En réalité, l'architecture évolue face aux défis du temps. Pour en parler, Faouzi Trita reçoit Mathias Gervais de Lafont, architecte, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais.
Bonjour Mathias Gervais de Lafont.
Bonjour.
Peut-être Mathias Gervais de Lafont, avant de débuter, un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce qu'on entend par un bâtiment qui devient obsolète ?
Alors un bâtiment qui devient obsolète, l'idée reçue de l'obsolescence, elle est liée à, on imaginerait un bâtiment qui tombe en ruine, on imagine une obsolescence physique. Alors qu'en réalité, l'obsolescence, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus plurielle. Il y a bien sûr donc en fait une fragilité qui est liée à la complexité de ces bâtiments, donc des bâtiments qui ont été construits avec des matériaux innovants, avec des procédés techniques complexes, évidemment, c'est des bâtiments qui demandent plus d'entretien. Mais il y a une obsolescence qui est beaucoup plus rapide, c'est une obsolescence normative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les attentes qu'on a par rapport aux performances de ces bâtiments, que ce soit l'isolation, le chauffage, ce qu'on attend aujourd'hui d'un bâtiment n'est pas pareil que ce qu'on attendait il y a 40 ans, 50 ans d'un bâtiment. Et puis enfin, le plus important, il y a une obsolescence de signification. C'est le sujet le plus compliqué, c'est-à-dire que l'obsolescence, c'est pas qu'une fatalité technique, c'est souvent un acte culturel. C'est-à-dire un bâtiment ne meurt pas de vieillesse, il meurt parce qu'on cesse de l'aimer ou de le comprendre. Et c'est là aussi qu'il y a un énorme effort pour nous, un accompagnement pour le concepteur contemporain, c'est de relier une époque à un parc immobilier hérité.
Ces bâtiments, il faut les aimer, il faut aussi les financer.
Absolument, absolument, il faut les financer. Et c'est le sujet le plus complexe. C'est pour ça que j'insistais sur la question de l'entretien. Ça veut dire qu'une rénovation lourde, elle est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre qu'un entretien régulier. Ça veut dire à nous aussi, maintenant concepteurs d'architecture, de dessiner les bâtiments qui sont faciles à entretenir, qui ne sont pas dépendants de technologies qui ont une obsolescence qu'on ne maîtrise pas forcément ou qui va au contraire même radicalement accélérer l'obsolescence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, la question, ce n'est pas le moment de sa livraison. La question vraiment, c'est de se dire, ce bâtiment, comment il va être maintenu, entretenu et c'est quasiment ça qui mérite d'être financé au moment où on imagine un projet à venir.
Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous arrivez à anticiper les désirs de demain ?
C'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, justement, on ne peut pas les figer. Donc en fait, la solution, c'est la flexibilité, la réversibilité, l'adaptabilité, la neutralité, qu'on projette sur lui d'autres potentiels qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui. Mmh. C'est ça la force, en fait, d'une nouvelle culture de conception, d'une nouvelle culture de concepteur. C'est devenir un médiateur et qui va rendre des choses possibles, mais qu'on n'est pas capable d'imaginer.
Mais est-ce qu'il y a des solutions futuristes qui, d'ores et déjà, s'offrent à vous ?
En fait, l'architecture, c'est une discipline...
Très conservatrice, non ?
C'est pas tellement conservatrice, mais en fait, ça veut dire que la vraie matière, la nature de l'architecture, c'est le climat, la gravité et la lumière. C'est-à-dire que, en fait, il faut imaginer qu'il y a une inertie dans la pensée de l'architecture. En fait, on réitère et on réitère des questions qui sont éternelles. Et c'est ça qui est si beau, moi, je trouve, dans cette discipline. C'est-à-dire qu'on continue à s'intéresser au franchissement. C'est toujours les mêmes gestes, en fait. C'est depuis Stonehenge, donc Stonehenge, ce qui est ce petit édifice avec juste quelques menhirs redressés et quelques poutres posées par-dessus dans le sud de l'Angleterre. On réitère exactement les mêmes choses, sauf qu'on en modifie la manière de les interpréter, de les mettre en œuvre. Mais une solution futuriste, en fait, à mon avis, elle risquerait d'être justement rendue obsolète parce que on projetterait une technologie ou un nouvel assistanat. Bizarrement, en fait, la durabilité, elle est dans la permanence de ce qu'on connaît déjà.
Eh bien, merci Mathias Gervais de Lafont de nous avoir parlé de votre art. Je rappelle que vous êtes architecte et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais.
Merci à vous, Faouzi Trita, et merci à Loïs Guérin pour la préparation de cet entretien. Un mot du temps demain, la neige arrive sur le nord-est, elle pourrait aussi s'étendre vers les Hauts-de-France et l'est de la région parisienne. Ailleurs, un temps plus calme, le soleil devrait même s'imposer sur la moitié sud, les températures restent hivernales, forte gelée le matin, entre moins 1 et moins 8 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 1 et 8 degrés, jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Alice Vicrobec, à la technique Grégory Wallon.